VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est 13h en temps universel. Bonsoir, bienvenue. Crise au Burundi. Après un jour de trêve, les manifestations contre un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza ont repris aujourd'hui à Bujumbura. Dans le même temps, le parti d'opposition UPRONA dit non au report de 6 semaines des élections législatives et communales proposées par les pays d'Afrique de l'Est à leur sommet de Dar es Salaam en Tanzanie. C'était dimanche dernier. Gaston Sinduo est le secrétaire général de l'UPRONA.
Nous, au parti UPRONA, nous avons accepté le premier report des élections. Aujourd'hui, nous voyons que le problème, c'est le problème des élections présidentielles. C'est le problème du président de la République, Nkurunziza. Qu'est-ce que les élections présidentielles ont de semblable avec les élections législatives et communales? Nous avons dépensé de l'argent, nous avons dépensé de l'énergie. Donc, pour nous, les élections législatives, les élections communales devraient se dérouler au 5 juin de cette année.
Gaston Sidimo, secrétaire général du parti UPRONA, joint par Idriss Fall. L'ambassade des États-Unis à Bujumbura exhorte de nouveau le président Nkurunziza à renoncer à sa candidature pour un troisième mandat. Dans un communiqué, la mission américaine souligne que cette initiative du chef de l'État burundais viole l'accord d'Arusha qui a mis fin à des années de violence dans le pays et risque de compromettre la stabilité chèrement acquise après une longue guerre civile. République démocratique du Congo, 5 ans jour pour jour après la mort du défenseur des droits humains Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana, l'ONG La Voix des Sans-Voix, dont il fut le directeur exécutif, réclame toujours justice. Dolly Befou, l'actuel directeur de l'organisation, demande que la lumière soit faite sur cette tragédie. On l'écoute au micro de Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Faire la lumière, c'est au niveau de la justice, dire pourquoi l'État congolais a organisé, planifié cet assassinat? Pourquoi on devrait assassiner Floribert Chebeya? Qui ont assassiné Floribert? Qu'il puisse préciser tout le monde qui a donné cet ordre-là. Nous savons ces personnes, nous les connaissons bien, mais il faut que la justice puisse le prouver. Il faut que la justice ou l'État congolais puisse dire que c'est X qui a ordonné, c'est Y qui a assassiné. Et l'État congolais nous dit non, le corps de Fidel, nous l'avons mis à tel endroit. C'est tout ce que nous cherchons jusque maintenant. Je crois que l'État congolais a l'obligation de faire la lumière sur cet assassinat. Parce que c'est son image qui a été ternie. C'est l'État congolais qui choisit ou qui nomme des personnes ou des autorités qui sont irresponsables. Il a vraiment le besoin de redorer son image qui a été ternie avec cet ignoble assassinat. Le procès se trouve à la haute cour militaire qui est en train d'instruire maintenant ce procès. La dernière audience a confronté les collaborateurs, monsieur Mouila, qui était venu avec une lettre, mais sa mission était d'identifier Floribert. Nous attendons que la haute cour militaire puisse se prononcer, puisse poursuivre tout le monde. Nous pensons en premier lieu le premier suspect qui est le général John Numbi. Parce que pour nous, c'était lui qui a organisé cela. La justice devrait l'inculper. S'il était quelqu'un d'autre, je crois qu'on ne pouvait pas le laisser comme ça. C'était la première personne qui devrait être arrêtée. Mais voilà, on les laisse libres. On laisse Kenga Kenga, qui a assassiné Floribert, Jacques Mugabo, s'est promené à Lubumbashi, mais on ne sait pas les arrêter.
Dolly Befou, le directeur exécutif de La Voix des Sans-Voix à Kinshasa. Au Soudan du Sud, les autorités ont décidé d'expulser Toby Lanzer, le coordonnateur de l'aide humanitaire dans le pays, ravagé par un conflit meurtrier. Des précisions avec Eddy Isango.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné cette action et a appelé Juba à revenir immédiatement sur sa décision. Toby Lanzer a joué un rôle important dans la réponse aux besoins humanitaires des communautés affectées par les conflits. Aucune raison n'a été fournie pour motiver cette expulsion, mais un porte-parole onusien a expliqué que le mandat de M. Lanzer arrivait à son terme et que son remplaçant, Eugene Owusu, est déjà désigné. Les Britanniques Lanzer a été nommé au Soudan du Sud en 2012. Il devrait prendre prochainement les postes de coordinateur régional humanitaire de l'ONU pour le Sahel. Près de 2,5 millions de personnes manquent de nourriture dans ces pays ravagés par la guerre et plus de 120 000 Sud-Soudanais survivent dans des camps des Nations Unies.
Et le président soudanais Omar El-Béchir a prêté serment aujourd'hui pour un nouveau mandat de 5 ans, un mois et demi après sa victoire aux élections marquées par une faible participation et un boycott de l'opposition. Au pouvoir depuis plus de 25 ans, M. Béchi s'est engagé sur le Coran au cours d'une cérémonie à laquelle assistaient ses homologues égyptiens Abdel Fattah al-Sisi, du Zimbabwe Robert Mugabe, du Kenya Uhuru Kenyatta. Selon un correspondant de l'AFP âgé de 71 ans, M. Béchi est au pouvoir depuis un coup d'État en 1989. Il a remporté le scrutin en avril avec 94% des suffrages.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président du Burkina Faso, Michel Kafando, a estimé aujourd'hui dans un entretien à l'AFP indispensable que les dirigeants issus des élections d'octobre dotent le pays d'une nouvelle constitution qui serait soumise à référendum. Il faut absolument qu'il y ait un changement de constitution et que le texte soit soumis à référendum, a déclaré le président Kafando en visite en France. Nous allons encourager ceux qui vont arriver au pouvoir à aller dans ce sens, a-t-il ajouté, estimant que ce processus ne pourra pas être lancé avant les élections prévues le 11 octobre. Au Nigeria, nouvelle attaque de Boko Haram contre Maïdigouri dans le nord-est du pays. Ville qui est censée devenir la base des opérations gouvernementales pour réprimer la rébellion du groupe islamiste. Selon les dépêches, des tirs nourris sont signalés aujourd'hui et l'aviation gouvernementale est intervenue. C'est la seconde attaque de Boko Haram contre Maïdigouri depuis l'accession au pouvoir du nouveau président Muhammadu Buhari. La précédente samedi dernier avait fait au moins 26 morts. Le nouveau président nigérien Muhammadu Buhari se rend demain au Niger pour une visite d'État de 2 jours. Avant de continuer au Tchad, des réactions à Niamey au micro de notre correspondant sur place, Abdul Razak Idrissa.
C'est en quelque sorte une reconnaissance de l'engagement du Niger dans la lutte contre la secte Boko Haram.
Il y a une sorte d'unanimité chez beaucoup de Nigériens sur le choix porté par le nouveau président nigérien Muhammadu Buhari d'effectuer au Niger sa première visite d'État à l'extérieur depuis son investiture.
C'est un choix obligé pour ce nouveau président.
Pour la majorité des Nigériens, il va certes être question de sécurité dans les échanges entre Issoufou et Buhari. Il doit aussi être évoqué la question énergétique. Le Niger dépend en effet en grande partie du Nigeria. Sur ce plan, les dernières perturbations dans le secteur au Nigeria ont été lourdement ressenties ici au Niger. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le président français François Hollande et son homologue nigérien Mahamadou Issoufou ont exhorté les rebelles Touareg du nord du Mali à signer l'accord de paix négocié à Alger dans le but de stabiliser cette région et isoler les groupes djihadistes qui y sont actifs. Appel lancé par les deux leaders à l'occasion de consultations aujourd'hui à Paris. François Hollande et Mahamadou Issoufou ont également appelé à la poursuite de la coopération régionale dans la lutte contre la secte islamiste Boko Haram. Et au Mali, le gouvernement a ouvert une enquête après la découverte d'une grande quantité d'engrais importés de mauvaise qualité livrés aux paysans. Claire Morin-Gibou.
L'affaire concerne environ 40 000 tonnes d'engrais. Les intrants étaient destinés au coton, une des principales cultures au Mali et aux céréales. Ils ont été livrés par des fournisseurs de la compagnie malienne pour le développement des textiles, la CMDT, selon des sources proches de cette société majoritairement détenue par l'État malien. Le ministère du Développement rural a confirmé hier qu'une enquête avait été ouverte sur l'importation de 40 000 tonnes d'engrais frelatés et que toutes les personnes impliquées dans ce scandale répondront devant la justice. Lors d'une réunion au ministère de l'Agriculture où cette affaire a été mentionnée, le président Ibrahim Boubacar Keïta a affirmé la semaine dernière qu'il sera sans pitié et intraitable contre d'éventuels fautifs. C'est une question de santé publique, de morale et d'éthique, avait-il dit.
Et en Côte d'Ivoire, les opérations de révision des listes électorales sont en cours depuis hier. Elles devraient concerner 3 millions de nouveaux électeurs. La lutte contre le groupe État islamique, le premier ministre irakien Haider al-Abadi estime que la coalition menée par les États-Unis qui soutient l'Irak dans son combat contre les djihadistes n'aide pas suffisamment les forces pro-gouvernementales irakiennes. Il a fait cette déclaration avant sa réunion aujourd'hui à Paris avec les ministres des Affaires étrangères des pays de la coalition pour discuter de la stratégie à suivre pour contrer les récents progrès de l'État islamique. Merci de nous avoir suivis. Jean-Roger Billon à ce micro. Je vous retrouve dans moins d'une heure. Merci et à tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.